Ce chiour est dédié pour la Refoua Shlema de Oria Bat Florence Chana.
Amen.
Alors on pose la question, quel est le sens profond de la cacheroute? Pourquoi Dieu a-t-il interdit de consommer certains aliments et permis d'autres? Ok. Il faut comprendre une chose super basique concernant la création du monde, le pourquoi et du comment de ce monde. Dieu, avant de créer le monde, il y avait lui, et on va dire les anges. Tout était parfait. Hachem voulut créer un monde imparfait. Un monde où il y a le mal, il y a l'erreur, il y a le mensonge. Pourquoi? Pour pouvoir créer un être, l'être humain, qui aura le libre arbitre. Ayant le libre arbitre, il ressemble à Hachem. Parce que dans la réalité avant la création, tu n'as personne d'autre qui est libre de faire quoi que ce soit si ce n'est Hachem. Hachem décide de tout et il crée tout ce qu'il crée, et comme il a créé, il n'a pas de libre arbitre. Ah non, je ne peux pas dire non, je ne suis pas d'accord. Ah non, j'ai fait ce qu'on lui dit, point barre. Il n'a pas le choix. Comme une pierre, comme un animal, comme une fleur, d'accord. Dans tous les règnes, minéral, végétal, animal et angélique, il n'y a pas de libre arbitre du tout. Le seul qui est apte à pouvoir décidé par lui-même, c'est l'être humain. Et le seul à part l'être humain, c'est Dieu. En cela, les anges étaient très... Quelque part, on dit à Dieu, comment tu vas créer maintenant un être humain? C'est quelque chose de révolutionnaire. C'est comme si... Et les gens vont se tromper. Peut-être qu'il y a d'autres dieux que le vrai Dieu. Un être humain. C'est pour ça que Dieu, d'ailleurs, une fois que le premier homme a péché, il a chassé du paradis pour pas que les gens croient qu'il y a deux autorités. Il a rendu l'homme un peu plus bas dans ce monde-ci. Un peu beaucoup plus bas. Donc Dieu a créé l'être humain doué d'un libre arbitre, et pour qu'il puisse exercer ce libre arbitre, il fallait créer l'option bien, l'option mal. Juste, faux. Pour qu'il y ait une option faux, il faut créer le faux. Il faut créer le mal. Dans la réalité mystique, donc il y a des forces négatives, des forces positives. Les forces négatives ne peuvent avoir de vie que si elles puisent cette vie, elles sucent cette vie, elles reçoivent cette vie de la part des forces positives, qui sont des forces divines. C'est-à-dire, Dieu a créé, comme je dis, la vérité et le mensonge. Alors c'est quoi le mensonge? Le mensonge, c'est ce qui n'est pas. Je vous dis, c'est une feuille, vrai ou faux? Vrai, dans la réalité, ça est. Il y a ici une feuille. Je vous dis maintenant, c'est un téléphone, vrai ou faux? Faux. En réalité, il n'y a pas de téléphone. Faux égale n'existe pas. Alors, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Comment ça peut exister? On va mettre un peu de vérité dans le mensonge. Chaque mensonge, dit Hazal, quand il n'y a pas un peu de vérité, il ne tient pas. Au niveau mystique, il y a le monde qui existe, la vérité. Le monde qui n'existe pas, la mort. Donc, elle n'existe pas. Elle est à l'état potentiel, latent. Pour pouvoir exister, Dieu va lui donner un peu de vie. Ça, c'est la situation avant le péché originel. Donc il y avait des forces mensongères, le serpent. Enfin, c'est plus fort, c'est plus grand que ça. Les forces mensongères se sont incarnées dans le serpent. Le serpent vient, va tenter Ève, qui va tenter le premier homme, d'un mensonge. Et il tombe dans le panneau. Dès lors, qu'est-ce qui s'est passé? Toute leur puissance très grande qu'ils avaient, positive, de vie divine, elle tombe dans le mensonge. Dès lors, le mensonge reçoit une force divine extraordinaire, il devient très fort. Avant, il avait une petite force minuscule. Là, maintenant, il reçoit, par le péché originel, premier homme, il tombe très très bas dans la mort, et donne vie à la mort. Tu donnes vie à la mort, tu crées le mal. C'est quoi le mal? C'est un mort vivant. Un mort mort, ah, il est mort. Mais un mort vivant, là il sort. Le Daesh, tout le mal qu'il y a dans le monde. Et dès lors, toute la réalité était mélangée bien et mal. Tout est mélangé bien et mal. L'homme, son but est, par ses actions positives, ou s'il ne les fait pas par la souffrance, de retirer l'étincelle de vie qu'il y a dans le mal, dès lors le mal meurt. La vie repart à sa source, dans Hachem, la mort n'a plus de vie, elle disparaît et tout le monde est content. Ou par les mitzvot, l'étude de Torah, etc. Par le fait aussi de se retirer de faire un péché. Ou si on ne le fait pas par la souffrance. Comment par la souffrance? La mort, qui a une puissance de vie, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut le mal. Ben, elle va déverser son mal. Elle va amener des attentats, des maladies, des divorces, des trucs terribles. Une fois qu'elle a fait, toute son énergie négative s'est réalisée. Elle n'a plus d'énergie, elle meurt. Ce job que nous avons, que toute l'humanité a, et spécialement le peuple juif, donc c'est ce job de sélection entre le bien et le mal. On appelle le bien des étincelles de sainteté, et le mal, comme j'ai dit, on appelle ça des écorces, ou bien les forces de mort, citra, le côté autre. Donc tout cela est mélangé, et un des grands moyens que nous avons, à part les mitzvot et la souffrance, pour faire ce travail, c'est la nutrition. Car une question basique se pose. Hachem, assurément, est intelligent, a créé un monde de façon intelligente. Pourquoi est-ce qu'il m'a créé esclave d'un tuyau? J'ai un tuyau ici, qui commence là, qui finit aux toilettes, passablement long, qui exige que je mange 2 à 3 repas par jour. Et je passe, allez, combien de temps par repas, on va dire, une demi-heure en moyenne, 1h30, ça veut dire environ 10% de ma vie active, à mastiquer, déglutiner, mastiquer, déglutiner. Puis après, toilette. Prend du temps. Du temps extrêmement précieux. Et non seulement cela, mais pour avoir de quoi mastiquer, déglutiner, il faut nourrir ce tuyau. Une personne dans une vie, une fois j'ai vu une étude, je ne sais plus combien, de dizaines de mètres cubes, elle mange, d'accord, qu'est-ce qu'à la fin? Rien du tout. Le tuyau, il sent mauvais, il n'y a plus rien. C'est complètement crétin. Moi, si j'étais Hachem, j'aurais créé maintenant un être humain qui se nourrit d'oxygène. Hachem peut tout faire. On se nourrit par l'oxygène.
Mais ce serait trop facile.
Trop facile. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que ce soit facile?
Il n'y aurait pas de défi, ça veut dire si là tu sais que tu dois manger, donc tu vas forcément trouver à manger, mais si un jour tu es dans un désert ou je sais
mais
pas.
Mais Hachem, maintenant, il m'a mis une batterie, d'accord, depuis que je suis né, j'ai pas besoin de penser à manger. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Tu me dis c'est trop facile. Et c'est bien comme c'est maintenant, qu'il faut bosser des années et des années pour avoir de quoi se nourrir. C'est crétin. Les gens en font toute leur vie de ce tuyau. La majorité de l'humanité vit pour ce tuyau. Sans parler du monde animal, ils font ça du matin au soir. C'est quoi l'animal? Il mange et se reproduit, c'est tout. Et se bagarre.
Et il dort.
Voilà.
C'est une dépendance.
Terrible.
On est complètement dépendant.
Si on pouvait ne pas avoir de tuyau, ben on serait libre. T'imagines un peu cet esclavage, un esclavage d'un tuyau. Tu passes 80% de ta vie à nourrir ce tuyau. À quoi ça sert? Si c'était uniquement pour se nourrir, c'est idiot. Parce qu'Hachem peut faire qu'on se nourrisse autrement qu'ainsi. Donc certainement si Hachem a créé ça dans toute l'humanité et dans le monde animal et partout, ça veut dire qu'il y a une chose beaucoup plus profonde dans cette réalité qu'il y a dans le monde de nutrition. Pourquoi on fait ça?
On mange kasher.
La réponse, après on arrive au kasher. Non, dire qu'Hachem a créé ça pour qu'on mange kasher, c'est trop... on va dire autrement. Bah de même, lorsque je fais une mitzvah, ou me retiens de faire une avéra. Je fais une sélection entre le bien et le mal, c'est-à-dire que je vais retirer l'étincelle de bien qu'il y a dans l'écorce de mal, et le mal meurt, et l'étincelle repart à sa source. Idem quand je mange. Un des plus grands travaux qu'a l'univers entier de ce travail de sélection est dans le fait de se nourrir. Car de même que de façon physique, il y a ici une sélection entre le bien et les déchets. Vous voyez bien que quand je mange, qu'est-ce qui se passe? Par digestion, une partie, par la partie énergétique de l'aliment, qui est donc le bien, passe dans le sang, me donne de l'énergie, de la chaleur, etc. Et le mal, les déchets qui sont inutiles, ils sont éjectés. Donc il y a une sélection. Cette sélection n'est pas que physique, elle est aussi spirituelle. L'aliment que je prends, il contient des étincelles de sainteté, et contient du mal. Quand je mange, je fais ce travail de sélection entre le bien et le mal. Donc quelque part, je suis en train de faire le job de l'histoire du monde, d'abord pour réparer le péché originel, une fois qu'on arrivera à ce niveau très bientôt avec l'époque messianique, on passera à un autre niveau, encore plus haut. Mais tout est dans le même sens de faire une sélection entre le bien et le mal pour éloigner le mal et au contraire réparer le bien.
Si c'est ça, pourquoi le but du monde, ce ne serait pas que de manger alors?
Parce qu'on fait, on fait ce travail pas de cette façon, mais pas que de cette façon. Il y a d'autres façons aussi de faire, comme je l'ai dit, mitzvot, etc. Maintenant, vous me direz, un lapin qui mange sa carotte, qu'est-ce qu'il fait comme sélection? Ben, il en fait une. Parce qu'il y a des niveaux, niveau minéral, plus haut végétal, plus haut animal cachère, et enfin humain. Donc la carotte, c'est un produit de la terre. Il y a déjà un passage de terre à végétal, de minéral à végétal. Ensuite, quand l'animal impur va le manger, alors il y a un passage de végétal à animal. Et pour finir, quand un être humain va manger un lapin, ben, il va passer le lapin au niveau humain. Et quand un juif va manger un animal cachère, il va passer du niveau animal cachère au niveau humain juif. Donc il y a déjà ici une sélection, un travail. Maintenant, chez le juif, en quoi consiste ce travail? Il y a des animaux qui ont des charges spirituelles négatives de faible teneur et un pourcentage très grand de bien, d'étincelles de bien pour peu de mal. Il y en a que c'est que du bien. Il y en a que il y a beaucoup de mal pour peu de bien. C'est impossible qu'il y ait que du mal. Ça n'existe pas, sinon il serait mort, d'accord? C'est impossible qu'il y ait une mort. Dans la mort, il y a toujours un peu de vie. Donc même l'animal le plus impur que tu es, je sais pas, tu te prends une crevette affreuse, des fins fonds, des abysses, un truc, hein, rien que de le voir déjà, t'as mal au ventre. D'accord? Tellement il est horrible, il n'est pas cachère, il a un peu de vie. Attends, si tu le manges, qu'est-ce qui se passe? Étant donné qu'il y a peu de vie pour beaucoup de charges négatives, de mort, tu n'arrives pas à éjecter tout la mort, elle reste en toi. Et donc, tu as absorbé en toi des charges négatives malfaisantes qui te feront forcément t'éloigner de la sainteté. Tu mets en toi de l'impureté. Tu n'as plus envie de Dieu, tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas la Torah, tu n'as pas envie d'étudier, tu es attiré par les choses matérielles de ce monde, d'accord? Tout ça provient d'un éloignement de la sainteté, d'un rapprochement, Dieu nous en préserve, des choses impures. Par contre, quand tu auras un animal, une chose qui est complètement pure, c'est bien, tu te nourris en sainteté. Dans la majorité, alors les légumes, en gros, il n'y a pas de problème, à part en Israël, où il y a beaucoup de prélèvements qu'il faut faire. Les fruits, il y a problème avec les orlas. La orla, les trois premières années de la production, la production est interdite.
Les insectes aussi.
Je parle maintenant de ce qui est végétal pour le moment. Je parle légumes, fruits. Maintenant, je parle des animaux. Les animaux, alors, tu as des animaux qui ont un pourcentage négatif grand, c'est tout ce qui n'est pas cachère. Tu en as qui ont pas de. Qui ont un pourcentage négatif très très petit, et beaucoup beaucoup de bien. Par exemple, ce sont les poissons. Les poissons cachères. Poissons non cachères, c'est comme du porc. D'accord? Un poisson cachère, il n'y a pas besoin de faire. On va peut-être prendre l'exemple de la viande, vous comprenez pourquoi le poisson il est meilleur que la viande. La viande, il y a un grand travail de sélection à faire. Pourquoi? Parce qu'il contient pas mal de charges négatives, mais on peut les réparer. Parce qu'il n'y en a pas trop. Les viandes cachères, bien sûr. Une viande qui n'est pas cachère, donc tous les animaux impurs. Et même une viande cachère d'un animal qui est pur, les animaux purs, donc bœufs, vaches, brebis, béliers, boucs et chèvres, tout ça, c'est les animaux domestiques qu'on appelle, behema en hébreu, purs. Maintenant, les animaux non domestiques, il y a aussi tout ce qui est gazelle, chevreuil, voilà. Alors, pardon ?
Cerf.
Alors, il y en a. Oui, c'est cachère. C'est dur à en trouver dans le commerce parce qu'il ne faut pas les. Si tu les attrapes au fusil, tu les rends non propres à la consommation. Si on peut attraper avec un piège comme ça, ouais, c'est tout à fait cachère. Il y a plusieurs sortes. Il faut faire la shrita normalement. Ça s'appelle ça les chayot. Il y a les behemoth et les chayot. Bon, actuellement sur le marché, il n'y a pas de chayot, il n'y a que des behemoth. Donc des trois sortes que j'ai expliquées, donc chèvres, moutons et vaches avec leur mâle. Les volatiles maintenant. Les volatiles, il y en a des cachères, il y en a des non cachères. Plusieurs signes à cela. Il y a aussi, il faut qu'il y ait une massore et une tradition que c'est cachère et on les mange. D'accord ? Maintenant, tous les animaux non cachères, on n'en parle pas, ça rentre dans majorité d'étincelles de charges négatives. Ceux qui sont maintenant moitié-moitié, ou qui ont suffisamment de forces positives pour peu de négatives, par exemple la viande cachère. Alors, d'abord, il faut que ce soit de la viande cachère, un animal qui soit pur. Ensuite, il faut que l'animal ne soit pas taref. C'est quoi taref ? Taref signifie qu'il a un défaut. On en a parlé dernièrement, il y a 18 sortes de tréfort, 18 sortes de défauts d'un animal qui le rendent impropre à la consommation. Un trou dans la membrane cérébrale, un trou dans les poumons, un trou dans l'estomac, un trou dans les intestins. Après, il y en a comme ça 8 ou 9, ce sont les troués. Après, section. Section de la majorité du canet, comment on dit ça en français non.
La
trachée. La trachée. Par la trachée. La trachée. Un petit trou dans l'œsophage, ça ne va pas. Sectionne la colonne vertébrale, on a la moelle épinière, d'accord, un fil comme ça qui passe, s'il est sectionné plus de la moitié, ça rend non cachère, il manque une des deux jambes arrière qui est enlevée, mais très 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 haut, 18 sortes de tréfautes, ok. Ça, bien que l'animal soit pur, et déjà un peu à la consommation, il ne faut pas le manger terminé. C'est taref.
Ça, c'est des
oraita
ou
des oraita?
Mais c'est écrit où, là?
Anche Kodesh Tiyunli. C'est dans la parasha de la semaine, mon cher ami. Mishpatim. Des personnes saintes vous serez. Bassar trefa, bassadeh lotochelu. Animal taref dans les champs. Taref dans les. Pourquoi dans les champs d'habitude, c'est un animal, un lion qui est venu, ou un loup, d'accord, qui a rendu un animal taref. D'accord, il a mordu, il a fait quelque chose qui l'a rendu taref. Donc on parle dans les champs, mais ce n'est pas forcément dans les champs. Un défaut de fabrication, c'est aussi taref. Vous ne mangerez pas. La calotte à chikronoto, vous le jeterez au chien.
Les 18 sortes, c'est qui les a. C'est écrit dans la Torah ou.
Ça, c'est non. C'est Allah Hamoshé Misa. On a reçu de Moïse en tradition. Maintenant, ça, c'est taref. Ensuite, une fois que l'animal, il n'est pas taref, il faut l'égorger de façon rituelle. Si on le tue autrement que de façon rituelle, alors, de nouveau, il y a le tikkun qui ne sait pas une question pour pas qu'il ait mal. En passant, il a beaucoup moins mal que toutes les façons autres qu'il y a de le tuer. Parce que c'est un grand tikkun pour son âme, d'accord. Le fait de faire la shrita. On fait une bracha, c'est un très grand tikkun, très grande réparation pour l'âme de l'animal. En plus que ça, il souffre très très peu parce qu'il y a le principe, c'est une petite parenthèse, mais c'est intéressant d'en parler, le polygone de Willis. Qu'est-ce que c'est que le polygone de Willis? Parlons un peu biologie. Il y a des veines qui amènent du sang au cerveau. Il y en a deux dans le cou. Il y en a une près de la colonne vertébrale. Maintenant, du moment où j'égorge l'animal, forcément, je lui coupe les veines. Le problème, c'est que je coupe les deux veines du cou, mais je ne peux pas te couper celle qui est proche de la colonne vertébrale. Elle est trop en arrière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Du moment où j'ai coupé le sang, s'il n'y a plus d'arrivée de sang au cerveau, il y a une baisse de tension, il n'y a plus de pression, le sang n'arrive plus, le cerveau n'est plus irrigué. Sur place, l'animal y meurt sans ressentir aucune douleur. Le problème, c'est que c'est vrai que je coupe les deux veines, mais la troisième, elle amène le sang au cerveau. Alors, c'est effectivement dans le cas dans tous les animaux non cachères, d'accord, le porc, le cheval, l'âne, il y a les deux plus une. Dans tous les animaux cachères, et uniquement les animaux cachères, c'est extraordinaire comment ça a été fait, il y a un pont. Ça veut dire que, on appelle ça le polygone de Willis, il y a un pont, c'est-à-dire il y a les deux veines qui sont près du cou, il y en a une qui passe près de la colonne vertébrale qu'on ne coupe pas, mais il y a un pont, c'est-à-dire il y a une veine qui passe, qui sort de cette veine-là, qui est près de la colonne vertébrale, vers les deux qui sont dans le cou. Donc dès que tu sectionnes celle du cou, la pression de celle de la cervelle, forcément elle baisse, parce que tout le sang, au lieu de monter vers le cerveau, redescend par ces ponts-là à l'extérieur. Et donc automatiquement, la bête ne sent absolument rien. Que dans un monde caché, c'est extraordinaire.
Les autres, ils souffrent.
Alors. Les autres, ils souffrent. Mais on leur fait pas la shrita. Il n'y a pas besoin que Dieu ait créé cela, d'accord. Si un jour les goyim viendront, ou les juifs, vous faites maintenant une shrita qui est à égorge, qui fait mal aux animaux, on leur dit, mon cher ami, va étudier un peu de biologie, tu vas voir que tu te plantes.
C'est déjà fait, hein. Il y a 2 ans, c'était le scandale.
Ouais, donc la réponse, c'est pour le polygone de Willis, c'est extraordinaire. Je vais faire la parenthèse. Donc, Il y a un très grand tikkun spirituel, réparation spirituelle à faire, la shrita comme il se doit, l'animal en cela, et il y a on fait un très grand tikkun, entre autres. Le fait qu'on coupe les veines, d'accord, quand le sang sort, il y a un moment où il y a le sang dans lequel l'âme se trouve. Le sang, c'est marqué dans la Torah, qui a d'âme ou un nefesh. Le sang, c'est l'âme. C'est-à-dire que l'âme, c'est la partie la plus basse de toutes les parties spirituelles de l'être, que ce soit l'être humain ou l'animal, elle est en friction sur la partie la plus pure du sang. 86 millilitres de sang, ces 86 millilitres-là se pose l'âme. C'est là qu'ils sont, que les deux sont ensemble. Quand le sang, ce sang-là, sort du corps, l'âme sort aussi du corps. Donc il y a un grand tikkun déjà, parce que si je mange le sang de l'animal, alors je mange aussi de son âme. Et l'âme, elle est impure. C'est une âme animale, c'est moi animal, d'accord. J'avais une fois un élève, il y a une vingtaine d'années, ou 25, 30 ans, il était dans les... Comment on appelle ça? C'est pas le football américain. Le football américain, ils se cognent comme des fous, ouais, c'est très nerveux. Alors il m'a dit qu'il faisait des trucs pas très catholiques, si on peut dire ensemble, comme ça là. Il s'ouvrait un peu comme ça, il sonnait là, il mettait un peu du sang de bœuf, d'accord? Ça les rendait comme des dingues. C'était... Bon, il a fait le choix aujourd'hui, bah, au Hachem, c'est un vrai aujourd'hui, là. Tu verras rien. Pour dire donc que le sang animal, ça agit négativement chez nous, d'accord? Tu deviens comme un bœuf, comme un cheval, tout à coup, oui, tu te mets à élire, tu deviens une bonne femme, d'accord? Donc, on enlève le sang, l'animal, d'abord l'âme qui sort par la shrita. Ensuite, c'est insuffisant, il faut enlever le sang de l'animal. Alors, de deux façons, ou bien on grille la viande, et comme ça tout le sang il coule à l'extérieur, ou on fait une salaison. D'abord, on rince bien la viande, pendant une demi-heure, on la met dans l'eau pour qu'elle devienne bien tendre. Ensuite, on met du gros sel, pas du gros, ni du fin, du sel moyen, partout, de façon que la viande devienne immangeable tellement elle est salée, pendant une heure. Bidiavad, 24 minutes, donc c'est en 4 forces majeures, 18 minutes. Après, on rince très bien la viande jusqu'à ce que l'eau qui en sort est complètement limpide. Et là, même si après, quand on mange, on peut même manger la viande crue, il n'y a aucun problème. Et même si on voit du rouge qui sort, c'est pas du sang. C'est du jus de viande, mais ce n'est pas du sang. C'est permis complètement. OK ? Donc ça, la salaison, déjà, elle enlève. Donc toutes ces choses que je vous dis maintenant, c'est pour enlever les forces négatives qu'il y a dans l'animal. Donc égorger, d'abord pour voir qu'il n'est pas taref. Ensuite, égorger. Ensuite, la salaison. Et ensuite, on peut manger l'animal.
Pourquoi le sel ?
Le sel, il absorbe le sang. Très, très fort. Alors, pas un sel fin, parce qu'après il devient liquide comme le sang lui-même. Pas trop gros, parce qu'il tombe de l'œil. Il faut un sel moyen. Voilà, tu prends un poisson. Pas besoin de voir si c'est taref ou pas. Ça n'existe pas un poisson taref. Il y a un défaut de fabrication qui le rend impropre à la consommation. Tous les animaux sont cachés. Tous les poissons cachers sont cachers. Pas besoin de vérifier qu'il y a un défaut ou pas. Pas besoin de faire de salaison. Et pas besoin de faire une shrita. Tel qu'il est, tu peux le prendre comme ça, il faut attendre qu'il soit mort, dans un coup de massue, d'accord, dans la bouche, même cru, d'accord.
Le poisson en France, hein, totalement plus tard de le manger.
Pardon?
Le poisson en France, tous les poissons...
Tous les poissons cachers. Attention, okay. Par exemple, la boîte de thon, qui a l'air cachère, elle n'est pas cachère, dans la majorité des cas. Il existe 84 différentes sortes de poissons qui subissent l'appellation, qui supportent l'appellation thon. C'est pas des thons. C'est des sortes d'espadons, des sortes de schnurks, je ne sais pas ce que c'est, d'accord? Mais ce n'est pas du thon. Pour qu'un thon soit cachère, il faut qu'il y ait des écailles dessus. Donc attention à la boîte de thon, s'il n'y a pas un tampon cachère dessus, tu as de fortes chances, tu as 7. Tu as 7 espèces de thon cachère sur 84 qui ne sont pas cachères. 7 espèces cachères sur 84.
Mais c'est le même thon que...
C'est pas le même thon, on appelle ça, c'est pas un thon, ça ressemble au thon. Mais c'est une variété sans écailles. Pour qu'un un poisson soit cachère, il doit poser des écailles.
Souvent, il y a
écrit
traces de crustacés et tout, genre ça a été, je pense que ça a été fait dans une usine.
Ouais, traces de crustacés, on touche pas à ça. Saumon, ça va pas de problème.
Donc tous les saumons en France, on peut les manger, par exemple.
Ouais. Okay. Ouais. Bah, y a d'autres problèmes, faut faire attention. Des fois, quand c'est du saumon tranché, des fois les feuilles sont lubrifiées avec la graisse de porc. Ouais. Et les problèmes de bestioles, de bêtes, surtout dans le saumon norvégien qui vient de Chine. C'est marqué saumon de Norvège, mais il vient de Chine, d'accord. Le saumon de Norvège qui vient de Norvège, le saumon de Norvège qui vient de Chine. Alors le chinois, il y a plus de problèmes de tolaïm, de verre de poisson, c'est un problème. Ok, donc ça c'est pour vous expliquer donc qu'il y a des animaux qui sont plus ou moins cachers. Maintenant, dans tous les aliments, quels qu'ils soient qu'on mange, un grand tikkun des étincelles qu'il y a dedans pour enlever le mal et prendre que le bien qu'il y a dedans se fait par la bracha, la bénédiction qu'on fait avant et après la consommation. Donc c'est important de faire la bracha comme il faut bien, avec beaucoup d'intention, ça répare. On raconte une histoire pareille, qu'il y avait un juif qui a été, pendant une dizaine d'années, il était au Tibet, il serait monté très très haut. Et là, aujourd'hui, il parle à Ida Brut, il s'appelle Rav Fenger, d'accord, il monte très très haut dans les niveaux. Puis un jour, je crois que le Dalai Lama lui a dit, t'es juif, rentre dans ton pays, c'est là-bas qu'il y a la vérité, d'accord. Pour vous, c'est là-bas. Et ma tante qui était en Inde très longtemps, j'ai une tante qui était super, j'en ai deux comme ça, qui étaient, ils ont fait guesser après, ils ont tout plaqué, ils sont partis en Inde. C'est à l'époque des années 60, 70, tout ça, dans la mode très comme ça. Les deux sont décédés déjà aujourd'hui, Zohar Nevracha. Et donc, elles m'ont dit que les hindous disent, d'accord, que le niveau plus haut qu'ils arrivent, là-bas commence le niveau du peuple juif de leur Torah. Ils reconnaissent quelque part. Donc il est arrivé ce Dalai Lama qui lui a dit, rentre. Il est rentré, bon, il est rentré à Yeshiva, il est devenu un grand religieux bien. Un beau jour, il est en contact avec une jeune fille qu'il avait rencontré là-bas, non-juive, et ils se sont rencontrés. Et bon, il prend une pomme, il fait la bracha, il fait le kaval, il prend la etz. Elle devient tout blanc. Et pourquoi ? Il dit, je ne comprends pas. Ce que tu as fait maintenant comme action, moi ça me prend 2 heures de méditation pour enlever toutes les mauvaises influences qu'il y a dans la pomme. 2 heures de méditation pour enlever ça. Et toi, tu as fait un petit, tu as dit 2-3 mots, tac, tu as tout. C'est une fille qui arrive à un balèze niveau, pas une, d'accord, rien du tout. Elle arrivait par méditation comme ça, concentration, à enlever toutes les forces négatives qu'il y avait dans la pomme. Et elle a la bracha en une seconde, tac, elle a vu ça qui partait. Ben oui, ma chère amie, c'est comme ça que ça se passe chez nous. On fait la bracha et ça part. Donc c'est un exemple tout que nous avons comme un. Hein?
Tout part.
Pas tout. Pas tout. Faut plus.
Plus avec kavana.
Plus avec kavana. Maintenant, faut aussi manger. Et si on peut manger avec kavana, c'est bien aussi. Alors Ben Israël dit qu'il faut penser 2 choses quand on mange. Manger avec kavana. Ah oui, ça existe aussi. Alors, si on mange Shabbat, ça a beaucoup plus de poids. Le Shabbat, on a un supplément d'âme divine tellement grand que quand on mange, alors on fait une sélection très très puissante, très très grande, beaucoup plus grande qu'on peut faire pendant les jours rol, les jours profanes. C'est pour ça qu'on mange beaucoup Shabbat, on mange du poisson Shabbat. C'est bien de manger, aux 3 repas, de manger du poisson. Parce que le poisson, c'est un animal facile à réparer complètement. Donc c'est bien de manger du poisson Shabbat. Alors Ben Israël dit qu'il y a 2 pensées qu'il faut avoir quand on mange pour faire bien la réparation. 1. Faire la sélection entre les étincelles de bien et le mal, comme je viens d'en parler pendant une demi-heure maintenant, et autre chose aussi. Il arrive qu'une personne, lorsqu'elle fait des péchés graves durant la vie, elle revienne réparer cela en se réincarnant dans un aliment. Ou même des fois dans du minéral. Minéral, végétal, animal, non cachère, cachère, et même dans des êtres humains. D'accord ? Alors des fois, par exemple, Moïshi. Moi ici, il a fait des gros péchés quand il était dans ses. Il a été maintenant jugé. Il a perdu son temps toute sa vie. Au lieu d'aller à l'Yeshiva, il faisait la pêche. 8 heures par jour, rien. Il attend que ça. Bon. Il était au Lama, mon cher ami, t'as tellement aimé les poissons, bah, tu reviens dans un poisson. Bon, il revient dans un poisson. Quel poisson ? Il revient dans une crevette, l'oyster. Animal impur. Ah, il doit maintenant prier qu'un beau jour, il se fasse manger par un poisson. Un beau jour, voilà, vient une anguille, tac. Non, pas une anguille, donne-moi un nom de poisson qui mange des crevettes. Un saumon. Un petit saumon qui vient, tac, qui mange la crevette. Bon, déjà bien, il est passé de non-cachère à cachère. Maintenant, il est petit. Ah, il prie Hachem du dedans de son. Parce que l'âme, elle est présente. Hein, et Hachem fasse que. Vient un thon qui me mange. Vient le thon, clac, il le mange. Ah, bah, ouh, Hachem. Maintenant, il faut prier que j'arrive sur la table. D'un juif. D'accord ? On le met dans une boîte de thon. Voilà, tampon cachère. Vient. Des fois, c'est un descendant même de ce Moïchi qui s'allait. Des fois, c'est nous-mêmes, on nous amène nos parents et tout ça pour réparer le. Ouais, dans sa peau, bien sûr. C'est un parent qui a fait des péchés, ouais. Il prend la boîte de thon, il la met, il le tartine, et. Ah ! La bracha, t'as oublié, mon cher ami ! Renvoyé casse départ dans la crevette. Hachem Ishmor. Hachem Ishmor.
Si une crevette, elle peut avoir une âme juive, sachant que le juif, il peut être incarné en juif, en goy, en
tout.
Animal, en minéral.
En grain de sable.
En végétal. Ça veut dire que s'il serait incarné en goy, ça veut dire que c'est un goy qui aurait une âme juive.
Ouais. Une étincelle. Étincelle juive.
Oh là là.
Et alors, c'est ce qui le poussera de façon très souvent, pas toujours, mais il arrive que les convertis, ce sont des âmes juives qui sont comportées durant leur vie comme des goïms, et pour réparer, comme ils étaient juifs, ils sont descendus, ils sont comportés comme un non-juif, ils doivent refaire tout le travail dans l'autre sens, vas-y la conversion, vas-y le truc, vas-y le machin, pour arriver à réparer ce qu'il a fait dans sa réincarnation passée. Donc nous devons penser deux choses, dit le Ben Ishraï. Un, faire la sélection entre bien et mal. Deux, réparer les âmes incarnées, réincarnées dans l'élément qu'on mange. Une fois, le rabbin, je ne sais pas si imaginatif ou pas. Une fois, je suis allé le voir comme ça. J'étais sur sa table comme ça. Et bon, je lui parle, je pose des questions. Puis il y avait sur la table une sorte de plat avec un peu des bonbons, avec un truc. Il me fait, prends ça. Un truc de cocousse comme ça, bon, en pleine journée, enfin, je n'ai pas venu manger un truc de cocousse, comme cocousse, noix de coco pilée en petits trucs comme ça, sucrés.
Bunji.
Oh non, pas ça, oui, ça, tiens, prends, mange-le. Je pense qu'il a voulu me faire un tikkun, quelque chose qu'il y avait dans cet aliment, c'est très bizarre, il dit, tiens, mange un truc comme ça, c'est pas... Bon, les grands tzadikim, ils voient les âmes très bien, une fois, ça c'est une vraie histoire aussi, ça c'est une histoire. Rabbi Sion, c'est lui qui a acheté le poisson pour Shabbat. Donc il l'a acheté et il le préparait. Ah, il préparait comme ça, il l'a fait sur le truc. Bon, et on les a amenés pour vendredi soir, vient sa sœur le visiter. Il nous a amené un très bon poisson. Bon, alors sa sœur amène un poisson, à midi, la femme dit, il reste encore le poisson de ta sœur. Alors j'ai amené le poisson de ta sœur d'hier soir. Oh, quand même, j'ai le poisson. Bon, sous la chichite, on va manger ses poissons à lui. Bien sous la chichite, encore un troisième truc qui arrive, quelqu'un vient, vous amenez du poisson. Alors il a dit, dommage, ils n'ont pas mérité. Dommage, ils n'ont pas mérité. Parce que être mangé un jour de Shabbat par le Rav Ben Tzion des poissons, tu comprends qu'ils font un mérite. Ils n'ont pas mérité, comme ça l'arrivée l'a dit. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent, c'est clair. Tof, faut pas il y en a qui entendent ça dans des psychoses. Je suis en train de manger mon oncle, d'accord, il faut... Au part, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Vous simplement penser que...
Comment c'est voilà. Tout ça
hein? C'est la Kabbalah qui nous dit tout ça, la mystique juive. Le Ben Ishraï, il écrit ça dans Ben Ishraï, c'est des pensées mystiques basiques, d'accord, un truc beaucoup plus grand quand on mange. Mais ça, on n'en parle pas.
C'est Dieu qui nous renvoie dans des âmes de poisson.
Ouais.
Ça, c'est si on a fait des avérotes
ou... Ouais.
Et si on a fait des mitzvot pour entendre nos points.
Non, quand on fait des mitzvot, les mitzvot qu'on fait, elles nous donnent le paradis. Les péchés qu'on fait, pour les réparer, on doit subir... C'est pas toujours. Il y a certains péchés qui font être incarnés dans ce genre
c'est
de...
C'est ça, le Guéhenam,
c'est ça? Non, le Guéhenam, c'est beaucoup mieux que ça. Le Guéhenam, l'enfer, c'est le billet d'entrée au paradis. Quand on va au Guéhenam, c'est le dernier nettoyage avant d'entrer au paradis. Avant ça, il y a les Gilgoulim, les réincarnations, les Kafakela, toutes sortes de purgatoires que Dieu nous en préserve.
C'est plus facile que le Guéhenam, quoi.
C'est plus dur. La réincarnation, c'est beaucoup plus dur. C'est bien plus dur.
Le Guéhenam, c'est plus facile.
Ouais. Pourquoi c'est plus dur? Parce que t'as un libre choix. Le Guéhenam, il faut subir. Tu subis, tu souffres, tu cries, et puis bon, puis au bout d'un moment, c'est fini. Ok, c'est bien, mais tu peux pas faire pire que ce que tu es. Là, tu reviens ici des fois pour une bêtise que tu dois réparer, et tu pars en cacahuète. C'est terrible.
Juste, est-ce que vous pensez que le doute, il peut venir en mangeant pas cachère?
Absolument.
C'est sûr?
C'est certain. Mais ça t'arrive, il dit quand tu manges pas cachère, donc non seulement tu fais un truc impur, mais tu fais rentrer l'impureté dans toi-même, elle grandit, elle devient ta propre chair. Je crois que c'est écrit quelque part qu'il faut 7 ans manger cachère pour que tous les résidus de nourriture non cachère soient éliminés du corps.
C'est pareil si on a mangé sans faire exprès.
Pardon?
C'est pareil si on a mangé sans faire exprès.
C'est pas aussi grave, mais c'est clair que ça a un impact négatif, c'est clair.
Dans les
vues, Ouais. Quelqu'un qui mange quelque chose de non cachère, même de façon involontaire, le mal est rentré en lui. Alors, il n'a pas fait le péché, donc c'est moins grave, mais le mal est en lui. Il a de la pureté en lui. Forcément, il a moins d'envie d'Hachem, moins de trucs. Ouais. C'est...
Ah, donc quand on mange cachère, ça nous rapproche d'Hachem.
Absolument.
Absolument. On sent en nous un changement comportemental.
Absolument, comportemental, bien sûr. On ressent Hachem beaucoup plus fort, c'est clair.
Et puis si on ne mange pas cachère, donc au contraire, ça nous éloigne de Dieu.
Absolument. Ça nous pousse à faire des péchés. Bauch Adonai, Roman Vamen.